France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En France comme à l'international, les études convergent. Les cas de cancer augmentent chez les moins de 40 ans. Comment expliquer que cette maladie frappe désormais des populations plus jeunes ? Sur deux décennies, une tendance se dessine chez les 15-39 ans. Des diagnostics apparaissent chez des personnes qui, par leur âge, devraient être épargnées. Le cancer du côlon, par exemple, est celui dont l'augmentation chez les jeunes est la plus frappante. Et en ce mois d'octobre rose, le cancer du sein progresse chez les femmes de moins de 40 ans et même chez celles de moins de 35 ans. Il y a les coupables bien identifiés, l'alcool, le tabac, mais aussi d'autres suspects qui émergent. L'alimentation et les polluants environnementaux, bien que leur rôle exact reste difficile à mesurer. Comment faire face à cette hausse des cancers chez les jeunes adultes? Cancer, le péril jeune. Emmanuel Fourme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes oncogénéticienne et épidémiologiste à l'Institut Curie. Cindy Neuzillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue et oncologue des cancers digestifs à l'Institut Curie. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui êtes là à l'écoute, en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez nous suivre et vous abonner sur le fil podcast de l'appli Radio France, mais aussi sur notre compte Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte à Science CQFD. Alors, quel type de cancer augmente le plus dans cette population de jeunes adultes? Quelles sont les causes qui expliquent cette augmentation? Quels sont les programmes mis en place pour mieux comprendre ce phénomène? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour et nous sommes en 1949.
Bien des gens s'imaginent que le cancer est strictement l'apanage des gens âgés. Or, rien n'est moins exact. Les tumeurs malignes se développent couramment chez des adultes jeunes et même chez des enfants qui viennent de naître. Cette notion, qui pourrait sembler surprenante, est pourtant vieille et peut-être comme le monde. En tout cas, au plus lointain de notre documentation, on retrouve des cancers osseux indiscutables chez des momies d'Égyptiens adolescents et qui vivaient 4000 ans avant notre ère. La fréquence du cancer chez les jeunes était pourtant méconnue de nos devanciers. L'innovation de cette idée entraîne deux corollaires primordiaux. Le premier est d'ordre dogmatique. Hier encore, en effet, sinon aujourd'hui, certains théoriciens soutenaient que le cancer ne pouvait être que l'aboutissant de remaniements tissulaires successifs et de longues évolutions. Cette théorie devient difficilement compatible avec l'éclosion de cancer dans les organismes tout jeunes. Le second corollaire est d'ordre pragmatique. Faute de songer qu'un tout jeune adulte ou bien un petit enfant peuvent être atteints de tumeurs malignes, on méconnaît le diagnostic de celles-ci pendant très longtemps, trop longtemps pour qu'un traitement puisse intervenir au stade de la possible guérison. Et précisément, parce que le cancer insoupçonné n'est pas toujours identifié, les statistiques actuelles pêchent par défaut. Et nous sommes loin d'avoir encore une notion de quelques précisions sur la fréquence du cancer dans le jeune âge.
Voilà un extrait de l'émission L'heure de culture française diffusée sur la RDF en 1949 et la voix de René Huguenin, cancérologue. Emmanuel Fourme, on l'entendait dire, le cancer n'est pas l'apanage des plus âgés.
Effectivement, c'est vrai. Donc, Huguenin, c'était l'ancien nom de notre centre, de l'Institut Curie Saint-Cloud d'ailleurs. Et c'est vrai que le cancer pouvait toucher des enfants ou des adolescents. Donc, depuis probablement assez longtemps. C'est pas tout à fait la question aujourd'hui, parce que ça, on le sait. La question, c'est plutôt l'augmentation de l'incidence qui a été identifiée, pas tant chez les enfants et les adolescents, mais plutôt chez les adultes jeunes, avec des cancers qui correspondent à des cancers qu'on a habituellement plutôt âgés. Âgés en tous les cas, à partir de l'âge de 50 ans, on va dire.
L'incidence, c'est le nombre de diagnostics sur une période donnée, c'est ça?
Alors, ça c'est très intéressant peut-être à,
voilà, pour tout de suite.
Oui, pour tout de suite repréciser les choses. Dans les différentes études, il y a en général deux indicateurs de la fréquence des cancers ou des maladies en général qui sont données. Il y a le nombre de cas incidents. Donc ça, c'est un comptage, un dénombrement du nombre de cas. Ça ne tient pas compte de l'évolution d'un éventuel risque. C'est, par exemple, dans l'étude du Lancet, quand il parle d'une augmentation de 80% des cas incidents, on est dans une augmentation d'un nombre de cas de cancer. Ça peut vouloir dire que la population a changé en structure, qu'elle s'est accrue, par exemple, une population qui augmente, même si le risque de cancer ne bouge pas, par définition, automatiquement, il y aura donc un nombre de cas incidents plus important. Ça peut être aussi le fait que la structure d'une population change, qui peut augmenter le nombre de cas incidents. Par exemple, une population qui vieillit, donc qui s'accroît et qui vieillit, comme le cancer est quand même globalement une maladie qui est liée à l'âge, par définition, on peut avoir une augmentation du nombre de cas incidents quand la structure de la population change.
Et on va revenir évidemment dans quelques instants en détail sur ces outils en épidémiologie et sur ces études. Mais je voudrais également votre réaction, Cindy Neuzillet, à l'écoute de cet archive. C'est vrai que là, comme ça, quand on dit cancer, traditionnellement, on imagine que c'est pour les personnes les plus âgées. L'âge, c'est le facteur de risque.
Oui, alors je pense qu'il est aussi important de rappeler que d'un point de vue de physiopathologie, de cause des cancers, les cancers de l'enfant sont une entité à part, parce qu'ils ne sont pas causés de la même manière que les cancers de l'adulte plus âgé par des agressions d'une manière ou d'une autre sur l'organisme. Ils ont des mécanismes qui sont différents. Et donc, il ne faut pas se dire qu'avec une évolution éventuellement des cancers chez les adultes jeunes, ça veut dire qu'on va voir apparaître des cancers chez les enfants. Encore une fois, c'est vraiment deux entités distinctes. Et là, dans le propos de l'archive, je pense qu'il faisait plutôt référence à ces cancers pédiatriques qui existent, qui sont une réalité et qui sont aussi une expertise de l'Institut Curie, mais dont il faut bien distinguer en fait du sujet d'aujourd'hui qui est vraiment celui des cancers de l'adulte jeune et qui dont les mécanismes en cause sont différents. Et
tout à fait. Aujourd'hui, on va parler en effet plutôt des 15-39 ans, adolescents, jeunes adultes. Peut-être pourquoi, pour revenir quand même un peu sur les fondamentaux, Cindy Neuzillet, pourquoi les personnes plus âgées ont-elles plus de cancers que les plus jeunes que les jeunes adultes?
Alors ça, c'est parce que le cancer, à la base, c'est une maladie génétique de la cellule en fait, du corps humain qui va voir son livre pour fonctionner, qui en fait, son manuel d'utilisation en fait, repose dans ses gènes, qui au cours de la vie vont pouvoir se voir abîmés par un certain nombre d'agressions qui peuvent être causées par les UV pour les cancers de la peau, par le tabac, par l'alcool. Et donc, il y a d'un côté ces agressions qui surviennent et d'un autre côté aussi un système que l'on a dans le corps normalement de veille pour identifier les cellules dont le manuel d'utilisation est abîmé et pour les éliminer. Et donc, finalement, tout au long de sa vie, on crée des cellules abîmées parce qu'on est exposé aux UV, on est exposé à des agressions, même déjà dès l'âge jeune. Mais on a, en fait, notre système immunitaire et d'autres éléments de défense qui permettent de les éliminer. Et si le cancer se développe, du coup, plutôt à des âges avancés, c'est parce que c'est à ces âges avancés qu'on accumule davantage des agressions et aussi que les organismes de veille sont moins vigilants pour éliminer ces cellules anormales.
Aujourd'hui, les cancers continuent de toucher davantage les populations vieillissantes, mais on peut faire un état des lieux à partir de plusieurs études, et notamment une très importante parue publiée par Santé publique France et l'Institut national du cancer, étude parue en mars dernier. C'est deux décennies de chiffres sur 19 départements entre 2000 et 2020. Emmanuel Fourme, que nous enseigne cette étude ?
Alors, cette étude nous enseigne tout de même qu'il y a effectivement là ce qu'on appelle une incidence qui augmente, mais on parle à la fois du nombre de cas, mais aussi du taux d'incidence. Donc là, le taux d'incidence, c'est effectivement, l'équivalent effectivement d'une augmentation du risque d'une pathologie, et on l'observe sur certaines localisations chez les sujets jeunes, donc de moins de 40 ans, enfin 39 ans inclus, dans cette étude de Santé publique France, qui est une étude donc qui a été faite effectivement, comme vous l'avez dit, à la base avec les registres du cancer français Francim, les hospices civils de Lyon et l'INCa, et qui démontre que certaines localisations tumorales pas toutes, hein, mais certaines localisations tumorales ont augmenté au cours des 30 dernières années.
Oui, avec Cindy Neusilé, on voit une hausse plus marquée pour 6 cancers en particulier.
Oui, et donc qui comprend donc les cancers du sein, on en a parlé précédemment, aussi un certain nombre de cancers digestifs, parce que le tube digestif est aussi un élément d'interface avec notre environnement, et donc en particulier il est pointé dans ce rapport le cancer colorectal, le cancer du pancréas, mais il y a aussi des données américaines par exemple qui indiquent qu'il y a une augmentation de certains types de cancers des voies biliaires, de l'estomac et de l'intestin grêle, donc c'est pour ça que c'est l'ensemble finalement du tractus digestif qui est concerné. Et également, il me semble, des glioblastomes qui étaient rapportés dans le rapport.
Oui, mais avec des problématiques de classification au cours du temps. En revanche, cancer du rein, qui était aussi significatif dans cette étude, qui est une étude solide, qui remonte à plusieurs années. Et ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que cette augmentation d'incidence qui est observée là sur donc, des registres français du cancer n'est pas une augmentation... je dirais constante tous les ans. Donc c'est pas une grosse augmentation à un moment donné, mais c'est une augmentation de l'incidence constante tous les ans sur la période d'observation. Là, quand on parle notamment des localisations sur le cancer colorectal et pour le cancer du sein.
Sur le cancer du sein, on a aussi cette autre étude qui vient tout juste de paraître là en octobre dans la revue The Brist, qui met en évidence que le ratio de personnes touchées par le cancer du sein augmente bien chez les moins de 40 ans. Emmanuel Fourme.
Oui, mais en fait, c'est les mêmes données qui ont été utilisées, à part que ça, dans The Brist, ils ont fouillé un peu plus et mieux décrit les tranches d'âge. Mais effectivement, ça c'est d'ailleurs quasiment la même estimation, donc c'est-à-dire plus 1,5%, il me semble, d'augmentation annuelle de l'incidence, donc du taux d'incidence du cancer du sein entre 1990 et 2023, en sachant que jusqu'en 2018, c'est des données qui sont observées à partir de 2018 jusqu'en 2023, c'est une projection. Donc, il faut bien voir aussi quelque chose, c'est que en France, effectivement, nous avons des registres de cancer qui couvrent 24% de la population française, qui sont de très haute qualité en termes de recueil. Et les extrapolations, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de dire sur ce qui se passe au niveau de l'hexagone et les extrapolations du nombre de cas incidents notamment, et des taux d'incidence, sont faits sur la population française. Et on ne sait pas si les 24% qui sont observés et recueillis sont vraiment représentatifs. On le sait d'ailleurs, en fait, qu'ils ne sont pas tout à fait représentatifs, puisque par exemple les grosses zones urbaines ne sont pas dans les registres du cancer. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que il y a une perspective de faire un registre national qui a été voté. Peut-être pas le décret d'application, mais enfin, en tous les cas, la loi. Et c'est un registre national aura aussi, du coup, toute une série d'avantages sur d'abord une couverture nationale et en plus, je dirais, des précisions peut-être de diagnostic qui seront un petit peu plus affûtées que celles dont on dispose aujourd'hui. Mais juste pour revenir sur l'histoire du cancer du sein, donc effectivement, là, on voit une augmentation qui est quand même constante chez les femmes jeunes et avec un... Ça reste un cancer qui est bien sûr moins fréquent que les femmes de plus de 50 ans, puisqu'il faut savoir en France qu'à peu près 80% des diagnostics de cancer du sein sont faits après 50 ans. Donc il y a 20% des cancers du sein qui sont faits avant l'âge de 50 ans et une partie avant l'âge de 40, qui est un peu en augmentation.
Là, on parle de chiffres qui concernent la France. On a aussi cette étude du BMJ, un British Medical Journal Oncology, en 2023. Là, à l'échelle mondiale, on voit que le nombre de nouveaux cas de cancer chez les moins de 50 ans a augmenté de près de 80% en moins de 3 décennies. On est passé de 1,82 million en 1990 à 3,26 millions en 2019. Cindy Neusilé, est-ce que ce sont des chiffres préoccupants? Est-ce qu'on peut parler d'explosion, même de tsunami, comme on a pu lire dans la presse?
Alors, ce sont des chiffres préoccupants, et notamment, par exemple, quand on parlait du cancer du pancréas, au sein de la Société française du pancréas, il y a un groupe de travail qui a été créé pour se pencher sur ces problématiques de facteurs de risque et d'évolution épidémiologique. Maintenant, les termes d'explosion ou de tsunami sous-entendraient que ce serait une évolution exponentielle très rapide sur une période courte, alors que je rejoins l'analyse du docteur Fomm, à savoir que c'est plutôt un phénomène qui en fait est constant et qui conduit, quand on regarde sur l'ensemble de la période, à un chiffre d'augmentation qui est très important. Mais en fait, la cinétique, elle est inquiétante, mais pas aussi accélérée que le terme de tsunami pourrait laisser l'entendre. Mais ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose et que ce quelque chose nécessite que l'on se pose des questions.
Il se passe quelque chose, mais il ne faut pas être trop alarmiste, c'est ça?
Oui, et il se passe quelque chose qui nécessite effectivement, je vais répéter Cindy, qu'on s'interroge et que chaque pays, parce que dans cette étude, effectivement, il y a probablement ce que vous avez dit, c'est les 80%, c'est ce que je disais au départ, c'est des cas incidents. Et donc, il y a une part de cette augmentation qui est liée à l'évolution démographique de certains pays. C'est une étude qui comprenait, il me semble, plus de 200 pays dans le monde, et avec des pays qui ont eu des transitions démographiques pendant la période d'observation.
Oui, on est en effet, donc cette croissance démographique qu'on peut prendre en compte, mais aussi, ça peut aussi s'expliquer par de meilleurs diagnostics, par exemple.
Pour certaines localisations, possiblement, mais pas pour les cancers dont on a parlé tout à l'heure, en France.
En tout cas, on voit bien une hausse constante annuelle de certains cancers chez les plus jeunes, dont on n'explique pas précisément l'évolution, mais plusieurs facteurs sont connus. Comment expliquer cette augmentation? C'est ce dont on va parler dans quelques instants.
Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Comment comprendre le rajeunissement des malades du cancer? C'est la question que l'on se pose en direct sur France Culture avec Emmanuel Fourme et Cindy Neusil. On vient de voir, on a évoqué plusieurs études qui font état d'une augmentation de l'incidence de cancer chez les jeunes Français. Alors pour amorcer des explications, il y a plusieurs facteurs qu'on connaît, hein, qui sont déjà bien connus. Quels sont-ils, Cindy Neusil?
Alors, il y a un certain nombre de facteurs environnementaux, on en parlait, qui peuvent être à l'origine des cancers, notamment, donc là, si j'en reviens sur les cancers digestifs, par exemple, parce que les facteurs de risque sont pas les mêmes pour les différents cancers, donc je pense qu'on est un petit peu obligé de faire aussi par thématique.
Cas par cas.
Exactement. Et donc, on sait que la consommation de tabac et la consommation excessive d'alcool sont des facteurs de risque établis de cancer au même titre que l'obésité et l'inactivité physique, qui sont des problématiques de nos sociétés modernes. Le point qui est troublant, c'est que les cancers qui sont liés directement au tabagisme, par exemple, donc comme le cancer du poumon, sont en recul, en tout cas au moins chez les hommes, alors que là, on observe cette augmentation chez les hommes et chez les femmes. Donc, si c'était lié uniquement en fait à ce type de facteurs, ça ne s'expliquerait pas en fait par rapport à cela. Et l'autre élément, c'est que la consommation de tabac et d'alcool, même si elle est problématique en France, est en recul. Donc, c'est aussi un élément qui fait penser que, bien sûr, il est très important de rappeler ces facteurs de risque modifiables, parce que ce sont des facteurs de risque sur lesquels on peut agir par notre comportement pour réduire le risque de cancer. Et donc, lutter contre la consommation de tabac, d'alcool, le surpoids, l'obésité, l'alimentation transformée, l'inactivité physique sont des messages de santé publique extrêmement importants. Mais ils n'expliquent pas à eux seuls l'augmentation du nombre de cas que l'on observe.
Emmanuel Fourme.
Et oui, et juste aussi pour ajouter que, en plus, de toute façon, ces messages sont très importants parce qu'ils préviennent aussi d'autres types de maladies qui peuvent se développer plus tard dans la vie, comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète. Donc voilà, il y a toujours intérêt à les répéter. Maintenant, leur implication pour être sur les cancers jeunes, ça reste quand même une question par rapport à tout ce que vient de dire Cindy, y compris pour les cancers du sein.
Et vous avez évoqué des facteurs de risque comme l'obésité, le surpoids, la sédentarité. Dans quelle mesure ces facteurs-là sont-ils des facteurs de risque?
Par quel mécanisme vous voulez dire ? Alors en fait, c'est parce que alors il y a des mécanismes qui passent par la graisse abdominale, la graisse viscérale, dont on sait qu'elle se comporte comme un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire que quand on a trop de gras dans le ventre, ça vient perturber le fonctionnement de l'ensemble des organes du corps humain et en particulier la sensibilité des muscles et du foie à l'insuline, pour pouvoir finalement permettre au taux de sucre dans le sang de rester normal. Et donc pour compenser, les taux d'insuline augmentent beaucoup et on sait que l'insuline en soi, quand elle est présente en excès, pas l'insuline qu'on prend en traitement quand on a un problème de diabète, mais le fait d'avoir des problèmes métaboliques qui donnent en fait un excès d'insuline dans le corps est un facteur qui est pro-tumoral. Et donc c'est par ce mécanisme de la graisse abdominale en excès qu'il y a une part du mécanisme qui se joue. Mais pas seulement, parce que par exemple, on sait que le bénéfice de l'activité physique dans la protection contre le risque de cancer est indépendant de l'indice de masse corporelle. Donc il y a un effet bénéfique même chez les personnes qui ne sont pas en situation de surpoids et d'obésité. Et donc on sait que la pratique d'activité physique a un rôle notamment sur la stimulation du système immunitaire, dans cet effet de veille dont on parlait, et donc aussi par l'entretien d'un organisme avec une masse musculaire correcte, dont on sait qu'en fait c'est un peu la charpente qui fait qu'on est plus à même de se défendre contre les différentes agressions.
Par rapport justement à l'obésité, ça pourrait être un facteur explicatif sur la hausse des cas de cancer colorectaux et de cancer du côlon chez les plus jeunes ?
En partie, mais pas seulement. C'est-à-dire que, notamment pour la cinétique qu'on observe aux États-Unis, par exemple, on sait qu'il y a une part de ces cancers colorectaux qui sont liés à l'obésité. Le cancer du côlon est particulièrement lié à ces problématiques. Pour les cancers du pancréas, c'est une autre part aussi importante des cancers colorectaux. On les observe chez des patients qui ne sont pas en situation de surpoids ou d'obésité. Donc, ce n'est pas le facteur qui explique l'augmentation à lui-même du risque chez cette population.
Ça veut dire qu'en effet, il y a d'autres facteurs environnementaux en jeu, Emmanuel Fourme. Alors, quels sont-ils ?
Alors là, si on parle du cancer du sein, par exemple, on sait que globalement, il y a des facteurs qui peuvent être liés à la vie reproductive des femmes, des facteurs de risque, à faible risque, mais qui ont quand même été démontrés.
Vie reproductive, vous voulez dire, par exemple, les moyens contraceptifs ?
Non, c'est-à-dire l'âge précoce, plus précoce des règles, la ménopause tardive, ça a été montré comme augmentant un petit peu le risque de cancer du sein. Donc, tout c'est le fait d'avoir une première grossesse tardive après l'âge de 35 ans augmente un petit peu le risque de cancer du sein. Mais ça a été démontré chez les femmes plutôt après 50 ans, puisque il faut avoir eu une ménopause tardive, par définition, une première grossesse après 35 ans. Il faut déjà avoir eu 35 ans pour avoir une première grossesse après 35 ans. Enfin bon, ce genre de facteurs de risque ont été montrés dans des études qui sont, bien sûr, qui ont été multipliées et qui ont été faites un peu partout dans le monde. Mais plutôt pour les femmes de 50 ans, pour la raison suivante, c'est que comme c'est les femmes de 50 ans qui ont plus de 50 ans qui ont en général des cancers du sein, la puissance des études et l'identification des facteurs de risque, c'est évidemment sur cette population-là que ça a été d'abord montré et ensuite confirmé. Donc pour les sujets jeunes, c'est-à-dire pour les femmes de moins de 40 ans, les questions alors des facteurs de risque pour le cancer du sein, ce qu'on a dit tout à l'heure, les facteurs de risque modifiables, il faut quand même y penser, c'est-à-dire alcool, tabac, inactivité physique, en tous les cas, au moins ces trois-là. Et ensuite, ensuite, il reste quand même une part d'inconnus, il faut quand même le dire, d'autres facteurs de risque qui pourraient avoir contribué ou favorisé l'apparition de ces cancers à un âge inhabituellement jeune.
Parce qu'il me semble qu'au niveau mondial, on voit que l'occidentalisation des modes de vie peut faire augmenter le taux d'incidence du cancer et notamment du cancer du sein.
C'est vrai. Ça a été montré notamment dans cette étude là. Oui, c'est vrai. Donc là, ça laisse part à la question de quand on dit occidentalisation, ça veut dire peut-être alimentation d'un certain type, plutôt industrielle. Enfin, a priori, une sorte de transfert entre une alimentation plus traditionnelle, ça a été notamment montré en Asie, puisque maintenant jusqu'à présent, on va dire, les pays asiatiques n'étaient pas forcément des pays où l'incidence du cancer du sein était très élevée. Et là, il y a aussi une augmentation de l'incidence des cancers du sein dans des pays qui étaient jusqu'à présent peu concernés par le cancer du sein, et notamment chez les femmes jeunes. Et il s'avère qu'il y a une corrélation qu'on fait comme ça, mais enfin en tous les cas, qui fait que ces pays ont aussi eu cette transition dans un peu une perte, je ne sais pas complète, mais en tous les cas, un abandon un peu progressif dans les jeunes générations des modes d'alimentation plus traditionnels vers une alimentation plus industrielle. Donc c'est une corrélation.
Oui, une corrélation n'est pas causalité. On ne cessera de le répéter tout au long de cette émission, mais je voyais aussi cette étude parue dans la revue environnementale Health Perspective en 2024 qui identifie 920 substances susceptibles d'amorcer ou de favoriser le développement du cancer du sein. Je me tourne vers vous, Cindy Neuzillet, par rapport justement à ces substances. On parle de facteurs environnementaux, facteurs de risque. Comment on détermine justement les causes d'un cancer ?
Alors, on touche là la grande complexité du problème, en fait. C'est-à-dire que c'est très difficile de pouvoir identifier un agent qui soit coupable. Et qu'il est très probable que c'est un cocktail de facteurs. C'est comme on dit dans les accidents d'avion, c'est la théorie du Gruyère. Il faut qu'il y ait un cumul en fait de choses pour qu'on arrive à l'événement. Là, c'est la même chose pour le cancer. C'est la rencontre d'un individu avec une susceptibilité probablement constitutionnelle à certaines agressions, à mal tolérer certaines agressions, qui sont probablement différentes des gènes impliqués dans la prédisposition au cancer et qu'on connaît déjà. C'est pour ça que ça touche les cancers du sujet jeune. Pour les cancers digestifs, en tout cas, touche des individus qui ne sont pas dans des familles avec des historiques de cancers digestifs pour autant. Sur quoi arrivent des agents d'agression et des barrières pour lutter contre ces agressions qui sont diminuées. Et donc, comme on le disait, les facteurs de susceptibilité, on les connaît moins bien que les gènes de prédisposition au cancer. Donc, on ne sait pas pourquoi tel individu, quand il va être exposé à une substance, va faire un cancer et pas l'autre. Donc, on a cette première complexité-là. La deuxième complexité, c'est qu'il y a de multiples agents qui peuvent être en cause dans des agressions. Et donc, sur ça, il y a beaucoup de modèles expérimentaux animaux qui montrent que les pesticides, les PFAS, les microplastiques sont des agents qui causent des dommages sur les cellules et peuvent avoir un effet mutagène. Mais après, derrière, on est censé avoir aussi des mécanismes, on disait, de réparation. Et donc, il peut y avoir d'autres agents qui interviennent dans l'affaiblissement de ces phénomènes de réparation, même s'ils ne sont pas eux-mêmes directement cancérogènes. C'est là que se pose la question de tout ce qui est perturbateurs endocriniens, agents qui agissent sur le microbiote, les rôles des antibiotiques dans l'enfance. Et tout ça n'est absolument pas démontré, ce sont des pistes, mais la grosse difficulté, c'est comment modéliser tout ça. C'est-à-dire qu'on a différents systèmes d'approche en épidémiologie, je pense qu'Emmanuel pourra mieux en parler de moi, mais on a d'un côté des modèles animaux, mais qui sont souvent une simplification du coup de fait de la situation. Et puis après, concernant les données chez l'humain, finalement on a soit des situations, on a des cohortes cas témoins. Et donc, par exemple, si on prend le cas dans les cancers du pancréas, on voit qu'il y a chez les cas certaines substances qui peuvent être plus représentées que chez les témoins. Mais on sait que le niveau ultime de démonstration, c'est quand on a des cohortes exposées et non exposées, finalement. Et ça, pour le coup, on n'en dispose pas vraiment, mais tu as certainement un commentaire à faire dessus.
Et oui, et puis je peux, oui, tout à fait, je peux donner l'exemple pour le cancer du sein, puisqu'on a, des collègues de l'Institut Curie qui se sont penchés sur, par exemple, l'exposition au biphénol A et risque de cancer du sein. Ça a été publié il y a quelques années. Et là, on touche à la limite. Parce que, donc, effectivement, d'un point de vue expérimental, on a une conviction, et c'est démontré, que ça peut entraîner des anomalies au niveau des cellules mammaires, donc dans le génome des cellules mammaires des animaux. In vitro, il y a donc un potentiel carcinogène. Et ensuite, on passe à l'humain. Comment on démontre que ce problème et que cette exposition a un réel impact sur un risque de cancer du sein. Et donc, dans la méta-analyse là, qui a été publiée en 2018 dans le bulletin du cancer, par une équipe de Curie qui a refait un peu la synthèse de la littérature, il y avait des études cas témoins, puisque c'était les seules données qui étaient disponibles, et des études cas témoins, c'est-à-dire que là, c'est des femmes qui avaient un cancer du sein, et des femmes à qui on comparait qui n'avaient pas de cancer du sein, et ils ont dosé le BPA dans le sang, les urines, et même le tissu mammaire pour certaines études. Et il n'y avait pas de différence, en fait, qui a été montrée, sauf dans deux études, mais globalement, la méta-analyse n'était pas conclusive sur augmentation du risque de cancer du sein. Mais le problème, c'est de savoir quand est-ce qu'on mesure ces polluants potentiels ou ces perturbateurs endocriniens, et peut-être pas au moment du diagnostic. Et le problème, c'est qu'il faut avoir des études de cohorte pour pouvoir le démontrer de façon un peu plus formellement, avec la complexité supplémentaire de ce que disait Cindy, c'est-à-dire avec aussi un cocktail, ou en tous les cas, une approche multidimensionnelle des facteurs de risque qu'on peut avoir, soit volontairement, soit involontairement exposés.
Le fameux exposome. Et nous, on va comprendre dans quelques instants comment justement mieux comprendre l'augmentation du cancer chez les plus jeunes, comment tout cela est étudié également sur le terrain. Restez avec nous.
All of your life, between heaven and hell, a great big fictitious game,
to live,
where to live
to
is to know
your shame,
all your shames and your pains, to be in search for plain old happiness. Cause you are a special wonder,
and let nobody put you under.
Whenever your friends, they have their doubts in you, and the words you know they just aren't true, keep right on stepping.
Curtis Mayfield, Never Say You Can Survive. Nous parlons en direct sur France Culture de cancer chez les plus jeunes en compagnie de nos deux invités du jour. Emmanuelle Fourme, épidémiologiste et oncogénéticienne à l'Institut Curie, et Cindy Neuzillet, gastro-entérologue et oncologue des cancers digestifs à l'Institut Curie. Selon les spécialistes du centre Gustave Roussy, 11% des cancers du côlon et 23% des cancers du rectum surviendront chez des patients de moins de 50 ans d'ici à 2030, et les cancers gastro-intestinaux deviendront la deuxième cause de mortalité liée au cancer. Alors comment étudier sur le terrain l'augmentation de ces cancers chez les plus jeunes? On poursuit avec le reportage du jour. Il n'y a pas encore de consensus scientifique qui nous donne une explication à cette hausse de cancer chez les plus jeunes. Alors la science est en marche et des projets de recherche voient le jour. C'est le sujet de notre reportage aujourd'hui. C'est avec vous Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rendu au centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy à Villejuif, où l'on développe un projet de recherche pour mieux comprendre justement l'apparition de cancers digestifs chez les jeunes.
Et ce projet s'appelle YODA. YODA, c'est un acronyme anglais pour parler d'adénocarcinome digestif précoce. L'adénocarcinome, c'est une tumeur maligne qui affecte les cellules glandulaires de certains organes. En l'occurrence, ici, YODA s'intéresse aux tumeurs des organes digestifs. Alice Boilev, qui est médecin-chercheuse à Gustave Roussy et principale investigatrice du projet IODA, me racontait que le développement de cette étude part d'une impression diffuse qu'elle avait avec ses collègues en consultation, le sentiment qu'il y a de plus en plus de patients jeunes. En discutant avec des collègues étrangers lors des congrès, elle se rend compte que d'autres médecins ont eux aussi ce sentiment. Et puis, les premières études épidémiologiques viennent confirmer cette impression. C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de IODA, qui sera la première étude prospective consacrée à l'analyse des facteurs environnementaux menés sur les cancers digestifs et qui devrait débuter d'ici 2026.
Plusieurs études valident cette impression qu'on avait d'augmentation des cancers des sujets jeunes dans les cancers digestifs, et notamment pour les trois plus fréquents et impactants d'entre eux, le cancer du côlon et du rectum, le cancer de l'estomac et le cancer du pancréas. Sur ces courbes, on a la description du taux d'incidence ajusté à l'âge en fonction de l'année de naissance. Donc finalement, on peut avoir...
Le taux d'incidence, c'est quoi exactement ?
Le taux d'incidence, c'est le nombre de patients diagnostiqués par année. Donc là, c'est rapporté à 100 000. Donc c'est un taux qui ne veut pas dire grand-chose de façon brute. Et ce qui est important, c'est plus l'évolution de la courbe. Et ce qu'on voit, c'est que pour les patients qui sont âgés de moins de 50 ans, on a une augmentation de ce taux d'incidence plus les patients sont jeunes, versus une diminution du taux d'incidence pour les patients qui sont plus âgés.
Comment on monte un projet à partir de ces interrogations, de savoir pourquoi il y a cette hausse de cancer chez les jeunes, et à partir de toutes les hypothèses qui existent dans la littérature, qu'est-ce qu'on choisit d'aller explorer en priorité ?
Nous, on se base sur des patients qui sont déjà malades. Ce sera ce qu'on appelle une cohorte prospective. Prospective, ça veut dire qu'on va suivre les patients au cours du temps à partir du moment où ils sont diagnostiqués de leur cancer. Mais c'est des patients qui ont déjà le cancer. Donc on ne va pas pouvoir aller regarder de façon très précise ce qui se passe dans le passé. Donc ce qui se passe sur, par exemple, les consommations d'antibiotiques, même il y a 10 ans, etc. Et tout. Il y a des biais qui sont inhérents. Et ce qui est important, c'est d'en être conscient. Une autre approche qui est plus puissante, probablement, et qui contrôle mieux les biais, c'est des cohortes en fait, où ils vont suivre des personnes qui n'ont pas de cancer. Et regarder différents facteurs au cours du temps. Il y a des questionnaires, pareil, des prélèvements, et regarder au cours du temps qui va faire un cancer. Et après, comme ça, on peut regarder chez ces personnes saines qui va faire un cancer ou pas. La problématique, c'est que ça dure très longtemps, parce qu'en fait, statistiquement, dans cette cohorte, et heureusement, la majorité des gens ne vont pas avoir de cancer, et encore moins de cancer digestif. Donc tant mieux. Et donc pour avoir une certaine puissance statistique, il faut avoir suffisamment de cas, qu'on dit de cas incidents. Et donc pour l'instant, ce n'est pas le cas dans ces cohortes, en tout cas d'un point de vue statistique, ce n'est pas encore assez robuste. Donc entre guillemets, il faut encore attendre le suivi pour pouvoir avoir assez de cas. Et donc ça ne permet pas à l'heure actuelle de pouvoir répondre à notre question. D'où notre idée de pouvoir commencer déjà avec les patients qu'on va avoir nous en consultation.
De donner quelques éléments de réponse.
De donner quelques éléments de réponse. Voilà, avec une méthode qui est plus rapide, qui a des biais, qui répondra clairement pas à toutes les questions. Mais notre objectif, c'est déjà de renforcer certaines pistes, certaines hypothèses, et peut-être en fait amener d'autres questions. C'est en recherche très souvent le cas. Mais en tout cas, de pouvoir commencer assez rapidement, en effet.
Concrètement, l'étude se déroulera ainsi. Les patients de moins de 50 ans qui viennent en consultation pour un cancer digestif et qui acceptent de participer vont remplir un questionnaire pour tenter de comprendre à quoi ils ont été exposés au cours de leur vie ou encore quelles sont leurs habitudes alimentaires. Puis au cours de leur prise en charge, différents prélèvements seront effectués. Par exemple, lorsqu'ils auront une chirurgie, on va en profiter pour récupérer un petit bout de tumeur qui sera ensuite analysé en laboratoire. L'étude sera menée dans divers centres en France pour tenir compte des disparités spatiales, comme le fait d'habiter en ville ou à la campagne. Il faut donc que le protocole soit très strict parce qu'il devra être appliqué partout de la même manière. Pour le faire, Alice Boilev et ses collègues ont d'abord repris ce qui se faisait pour d'autres cohortes d'études en oncologie, puis ils ont ajouté tout un tas d'analyses spécifiques aux patients jeunes.
Nous, la partie de financement qu'on a, elle va nous servir justement à financer les analyses spécifiquement pour les patients jeunes, notamment les prélèvements pour aller regarder les polluants environnementaux, typiquement dans la graisse viscérale, dans les cheveux, ou même parfois dans les urines ou dans le sang. Ça, c'est des prélèvements qu'on fera spécifiquement pour les patients de moins de 50 ans, par exemple. Et donc ça, c'est des spécificités du protocole qui seront adaptées finalement à notre étude.
Et si Alice parle de polluants environnementaux, ce n'est pas un hasard. Une des spécificités de Yoda, c'est de s'intéresser à ce sujet en regardant par exemple l'impact d'une exposition aux pesticides ou aux microplastiques.
C'est une des pistes qui est suggérée parce qu'en fait ce qu'on recherche c'est un facteur d'exposition auquel les générations actuelles qui ont entre 30 et 50 ans en fait ont été exposées au cours de leur vie. Et c'est un facteur nouveau de l'environnement. L'environnement.
Par rapport aux générations un peu plus âgées.
Par rapport aux générations un peu plus âgées. Quand je dis l'environnement, c'est l'environnement au sens large. Mais il y a les pistes sur l'alimentation ultra transformée. Clairement, ça, c'est dans les hypothèses. Les polluants environnementaux ont été assez peu explorés, finalement. Il y a quelques études qui suggèrent. En fait, on a tous des pesticides, on ingère tous du plastique tous les jours. Quel est le rôle de ces polluants environnementaux? En fait, ça, on ne sait pas. Et ce qu'on espère avec Yoda, c'est pouvoir. On ne peut pas dire est-ce que c'est ça qui est en cause ou pas, mais en tout cas, essayer d'explorer l'impact des polluants environnementaux sur le risque de cancer digestif, parce que le tube digestif, finalement, il est quand même au contact direct de tout ce qu'on va ingérer, mais on manque clairement, pour le coup, de preuves dans un sens ou dans l'autre. Hein, donc, je ne suis pas en train de dire que les pesticides donnent le cancer ou quoi que ce soit. C'est une question qu'on se pose, mais en tout cas, il y a assez peu d'études qui l'explorent et qui regardent ces facteurs environnementaux de leur côté.
Pour l'instant, on cherche à savoir s'il y a une corrélation statistique ou non. Et l'idée d'ensuite savoir si c'est ce qui cause vraiment un taux de cancer plus élevé chez les jeunes, ça viendra que dans un second temps.
Exactement. Et en fait, Yoda ne pourra pas répondre à cette question, bien sûr. Et ça restera, en effet, comme vous dites, une corrélation et pas une causalité. C'est pas parce qu'on trouve dans un prélèvement qu'il y a tel ou tel pesticide ou polluant que ça veut dire que c'est ça qui a causé le cancer. Mais par contre, ça donne des pistes. Il y a des équipes de recherche beaucoup plus fondamentales qui, par exemple, vont étudier l'impact sur les cellules, qui peuvent être des cellules normales, de tel ou tel polluant. Et en fait, c'est plus pour générer des hypothèses, pour pouvoir potentiellement après prouver une causalité. Je parle de ces facteurs-là, mais c'est valable pour les autres. Et après, il y a quand même un côté mécanistique à l'explorer. Et ça, c'est la recherche plus fondamentale qui prend le relais, on va dire.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio, c'est notre collection La Science au Labo. C'est à podcaster sur l'application Radio France. Cindy Neuzillet, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Oui, c'est une très belle initiative que celle de Yoda qui a été validée par l'ensemble de la communauté d'oncologie digestive. Donc on en attend en effet beaucoup. Je pense qu'Alice Boilet va bien résumer les limites en fait face auxquelles on se retrouve dans ce type de situation, à savoir que lorsque l'on découvre par exemple qu'il y a 80% des sujets jeunes atteints de cancer du côlon qui sont exposés à une substance X. La problématique, c'est qu'on ne cherche que, on ne trouve que ce qu'on cherche et donc on ne connaît pas quel est le taux d'exposition de base du reste de la population. Donc que ce soit des personnes du même âge qui ne font pas de cancer ou des personnes plus âgés qui développent ce même type de cancer. Et donc, ça fait toucher du doigt toute la problématique de comment on établit ces corrélations pour pouvoir établir le fait qu'il y a un risque. Parce qu'on parle d'exposition qui remonte à plusieurs années, voire dizaines d'années en arrière. Le cancer n'est pas une maladie qui se forme sur une exposition des dernières semaines ou des derniers mois. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de pouvoir la documenter, finalement. Et les travaux de Mathias Brugel, notamment, ont montré que, par exemple, pour les pesticides, y compris les sujets sains, tout le monde était contaminé par les pesticides et par des molécules qui étaient interdites depuis très longtemps et qui restent, en fait, dans l'organisme. Et donc, l'établissement de la preuve, les modèles statistiques nécessitent vraiment que tout le monde réunisse ses forces parce que, finalement, il ne va pas y avoir une étude. Ça va être un faisceau d'arguments par différents éléments. D'un côté, des éléments mécanistiques, de l'autre, des éléments d'observation entre des cas témoins, mais qui sont vraiment plus vraiment la première pierre. Mais ce n'est pas ça qui nous permet vraiment d'établir de façon définitive. Et la question qui se pose, c'est de se dire, est-ce qu'il faut attendre cette confirmation définitive pour prendre des mesures? Je pense qu'on peut raisonnablement dire, au même titre qu'on disait que les facteurs modifiables étaient des facteurs importants sur lesquels agir pour une bonne santé de façon globale, et bien que de limiter l'exposition à des substances potentiellement toxiques ne peut être que bénéfique.
Oui, on n'a peut-être pas besoin d'attendre de comprendre tous les mécanismes de cancérogénèse pour établir des mesures de réaction, Emmanuel Forme.
Oui, mais tout à fait. Et je dirais surtout avec le nombre de produit, enfin sur l'étude que vous avez citée en préambule, ça va être trop compliqué et très long. Il faut continuer, c'est sûr, les efforts pour comprendre, mais peut-être, c'est sûr, prendre des mesures de limitation d'exposition. Et l'idée aussi, c'est peut-être de les faire sur certaines périodes de la vie où la susceptibilité apparaît plus élevée, comme par exemple chez les femmes enceintes et pendant l'enfance.
Alors, quel plan d'action mettre en place par les pouvoirs publics ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Emmanuel Fourme et Cindy Neuzil et nous parlons de la hausse des cancers chez les 15-39 ans. On n'a pas encore dit que le pronostic des cancers précoces est souvent moins favorable. Pour quelles raisons, Cindy Neuzil ?
Alors il y a plusieurs éléments qui se combinent là aussi. La première chose, c'est que le diagnostic chez ces patients jeunes est souvent retardé parce que quand vous avez 30 ans et que vous allez voir votre médecin traitant parce que vous avez mal au ventre, c'est pas le premier diagnostic auquel va penser le médecin traitant et d'un point de vue statistique, il a raison en fait. Mais il faut savoir être vigilant si ces douleurs sont inhabituelles accompagnées de signes d'alerte pour aller les explorer. Mais ça explique que souvent il y a dans l'histoire des patients jeunes une forme d'errance diagnostique initial où ils ont dû consulter à plusieurs reprises avant que les investigations diagnostiques soient déclenchées. Et pendant ce temps-là, la maladie malheureusement évolue. Et donc, le plus souvent, le diagnostic il est porté tardivement lorsque la maladie est déjà très bruyante d'un point de vue symptomatique. Après, il y a une part de biologie qui pourrait être différente. On sait que certains de ces cancers digestifs du jeune, par exemple, peuvent avoir des évolutions plus agressives et moins bien répondre au traitement. Mais ça se combine aussi avec la notion des facteurs environnementaux, parce que par exemple, on parle des facteurs, ces facteurs d'environnement comme en jeu dans la genèse du cancer, mais ils pourraient aussi intervenir dans une biologie différente du cancer et potentiellement une résistance au traitement et qui là est un champ autre d'investigation mais qui est tout aussi intéressant parce que ça pourrait ouvrir aussi des perspectives d'un point de vue thérapeutique de s'intéresser à ces éléments-là.
Du côté du cancer du sein également, Emmanuel Fourme, on voit que les femmes jeunes sont plus susceptibles de développer un cancer du sein plus agressif, au pronostic plus défavorable. Alors comment, en tout cas, comment ça se passe sur le terrain ? Comment on prend en charge des patientes ? Est-ce qu'une patiente de 20 ans est prise en charge de la même façon qu'une patiente de 50 ans ? Est-ce que...
Bien, pour les traitements du cancer du sein, c'est quand même très adapté aux caractéristiques tumorales, à l'extension de la maladie, donc... Et à l'âge, mais je dirais que en termes de prise en charge thérapeutique, c'est après juste pour revenir sur les circonstances diagnostiques et pour rejoindre ce que disait Cindy pour le cancer du sein, très souvent c'est trouvé à l'autopalpation ou à la palpation par la patiente elle-même ou par son gynécologue ou son médecin traitant et ce n'est pas un effet du dépistage hein, puisque chez les femmes de moins de 40 ans par définition elles n'ont pas accès parce qu'il n'y a pas de possibilité d'ailleurs de faire du dépistage, donc c'est très souvent une tumeur qui est palpable au diagnostic et qui est trouvée par la patiente elle-même ou par son médecin ou par son gynécologue. Donc effectivement cliniquement palpable, donc plus grosse au moment du diagnostic que les femmes par exemple de 50 ans qui font des mammographies dans le cadre du dépistage où le principe c'est de diagnostiquer et d'identifier des tumeurs qui ne sont pas palpables au moment du diagnostic.
Même que pour le cancer colorectal.
C'est ça.
J'allais me tourner vers vous également Cindy Neuzil, comment, parce que vous êtes quand même de front sur ce terrain-là, comment, et vous voyez des patients jeunes tous les jours.
Sur l'adaptation de la prise en charge.
Tout à fait.
Alors c'est... En fait, il y a certains éléments, notamment de dose intensité des traitements, des doses de traitements qu'on peut administrer qui, des fois, peuvent être plus importantes. Du coup, en tout cas, on peut avoir plus de facilité à administrer des traitements optimaux, on va dire, que chez des populations plus âgées et plus fragiles. D'un autre côté, ça se combine avec des symptômes qui peuvent être plus marqués du fait du stade au diagnostic qui est plus avancé et donc qui peuvent, à l'inverse, du coup, fragiliser davantage le patient. Et aussi, des problématiques psychosociales et de gestion finalement du parcours de vie et du parcours de soins spécifiques au sujet jeune, parce que bien sûr, les problématiques en lien avec le travail, avec la vie familiale, vont être prégnantes.
Avec le projet parental aussi, puisque du coup, c'est conseillé et nous, c'est proposé, en tous les cas, pour les femmes jeunes et je pense aussi pour les hommes jeunes, d'avoir une consultation en onco-fertilité avant le début du traitement, notamment s'il n'y a pas eu de projet parental avant le diagnostic.
Là, avec tout ce qu'on vient de dire en bientôt une heure d'émission, quelles sont les pistes, quels sont justement les leviers d'action que vous identifiez pour prendre en charge cette hausse des cas de cancer chez les plus jeunes? Est-ce qu'il faut, là on parlait du dépistage, est-ce qu'il faut par exemple baisser l'âge du dépistage dans le cas du cancer du côlon par exemple, Cindy Nozillet?
Alors, c'est bien de le rappeler que le dépistage du cancer colorectal en effet à partir de l'âge de 50 ans pour ce qui est du dépistage organisé. Dans certains pays, notamment aux États-Unis, il y a eu des expérimentations en abaissant à l'âge de 40 ans et qui a montré qu'on dépistait davantage et qu'on avait un impact en fait sur le risque de cancer colorectal et de décès par cancer colorectal. Donc ça incite à revoir à la baisse l'âge du début du dépistage en effet. Après, il y a cet aspect de rester vigilant même chez des patients qui sont en dessous de l'âge du dépistage, puisque si on abaisse de 50 à 40 ans, ça ne réglera pas le problème des patients entre 20 et 39 ans dont on parlait en fait au début. Et donc, je pense qu'il y a une part aussi de serait-ce que dans la formation de nos jeunes collègues, en fait, parce qu'on nous apprenait dans notre formation à nous que le cancer, ça devait être quelque chose auquel on ait une sonnette d'alarme dans notre tête dès lors qu'on avait un cas clinique avec un patient de plus de 50 ans. Et en fait, c'est un réflexe quand on a un symptôme anormal chez quelqu'un de plus de 50 ans de se dire, il faut que je traque le cancer. Et en fait, c'est pas dans les réflexes sous-corticales du médecin de ville de penser au cancer chez des sujets plus jeunes. Donc je pense qu'il y a une part de pédagogie aussi par rapport à ça.
Emmanuel.
Oui, et c'est aussi vrai donc pour le cancer du sein. La question en ce moment, c'est effectivement, on sait que à partir de 50 ans, en France, le dépistage organisé ne recrute pas énormément puisque le taux de participation est un peu en dessous de 50%. Donc il y a à la fois de remotiver et de peut-être adapter, faire un dépistage du cancer du sein qui est un petit peu plus personnalisé et adapté au risque. Donc ça, c'est un peu les on va dire les axes en ce moment de réflexion, de l'abaisser cet âge. Comme le dit Cindy, pour le cancer colorectal, il y a des discussions pour savoir si on doit l'abaisser à 45 ou à 40 ans. Là, on parle de gens d'une façon générale. Et puis, même chose pour les femmes plus jeunes, de moins de 40 ans, la vigilance de la femme elle-même, de connaître ses seins, de consulter si jamais entre deux consultations, entre son gynécologue annuel, il y a quelque chose d'anormal, d'aller consulter. On va quand même dire que malgré tout, le cancer du sein et les cancers chez les jeunes, ça reste quand même une pathologie rare dont il faut prendre conscience et aller consulter si toutefois il y a un symptôme anormal qui dure et qui paraît anormal pour le jeune.
Une touche optimiste quand même pour finir cette émission. On voit que l'incidence de certains cancers a diminué en 20 ans, par exemple les mélanomes. Et ça montre que justement les mesures de prévention fonctionnent. Alors après, concernant les polluants environnementaux, il faut évidemment une action publique. Mais tout ça dépend évidemment du pouvoir politique. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbo. Quels sont les secrets d'un microbiote en bonne santé? C'est la chronique avec science.
Manger sain de temps en temps est-il suffisant pour avoir un microbiote en bonne santé? Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui résident dans nos intestins. On sait d'ailleurs que nous hébergeons dans notre organisme un peu plus de bactéries que de cellules humaines. Dans les intestins, ces microbes bénéfiques pèsent entre 1 et 5 kilos. Ils jouent des rôles fondamentaux. Ils nous aident à digérer, à assimiler des nutriments, à fabriquer des vitamines. Ils participent aussi au bon fonctionnement du système immunitaire, influencent la satiété et, selon certaines recherches récentes, pourrait même agir sur notre humeur et notre santé mentale. On commence à peine à mesurer toute l'importance de cet équilibre et comment nos habitudes alimentaires influencent cette flore. Marcel Salaté est professeur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et directeur du laboratoire d'épidémiologie numérique basé à Genève.
Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas encore trop sur ce lien On sait qu'un microbiote qui est divers, c'est un microbiote qui est sain. Mais par contre, quelle est exactement l'influence de la nutrition sur le microbiote? Ça, on a quelques idées, mais pas trop. Par exemple, on sait que manger des légumes, manger des fruits, des fibres et ainsi de suite, ça c'est important, mais c'est un peu le maximum ce qu'on sait aujourd'hui. C'est encore quelque chose qui manque de clarté, je dirais. Si on s'intéresse à l'alimentation dans une recherche, on fait une recherche épidémiologique ou médicale, bah, il faut déjà savoir ce que les gens mangent. Et c'est là toute la difficulté, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est on a donné des questionnaires, des sondages, ce qu'on appelle en anglais les food frequency questionnaires. Et là, on répond un peu ce qui est notre alimentation normale, entre guillemets. Mais ça se fait par mémoire.
Et c'est une limite méthodologique très importante. Quand on vous demande de vous souvenir de ce que vous avez mangé, vous allez avoir du mal à être exhaustif. Vous allez oublier certains aliments, et c'est normal. S'ajoute à cela un autre biais, parce que vous participez à une étude sur l'alimentation, vous allez avoir tendance à enjoliver un peu votre menu, à ne pas mentionner ce petit 4 heures, à mettre de côté ce repas tout prêt, englouti un midi où vous n'aviez pas le temps. Bref, d'avoir plus généralement une meilleure opinion de vos repas que ce qu'il en est réellement. C'est tout le problème des questionnaires autodéclaratifs, ça ne se limite pas au domaine de la santé. Pour pallier ces difficultés, une nouvelle étude parue dans Nature Communications a eu recours à une application MyFoodRepo. Les 1000 participants ont pu scanner les codes barres des aliments quand c'était possible, ou bien ils ont pris une photo de leur assiette. Comme ça, pas de triche et pas d'oubli. Et c'est une intelligence artificielle qui est chargée de reconnaître le contenu. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle peut elle aussi se tromper. C'est pour cela que des examinateurs humains vérifient toutes les données. L'algorithme fait tout de même gagner un temps précieux aux scientifiques et permet de standardiser la collecte tout en rendant l'expérience plus ludique pour les participants. Ces derniers n'ont pas seulement photographié leur repas, ils portaient aussi un capteur de glycémie, suivaient leur sommeil et leur activité physique, et ils ont fourni un échantillon de sel pour analyser la santé de leur microbiote. Résultat, je vais enfoncer des portes ouvertes, c'est une évidence, la régularité d'une alimentation saine est aussi essentielle que la quantité. Celles et ceux qui consomment régulièrement des aliments variés et équilibrés présentent un microbiote plus riche et plus diversifié.
Autrement dit, répéter chaque jour des bases simples, de légumes, fruits, céréales complètes et ainsi de suite, c'est vraiment associé à un microbiote plus riche. On n'a pas été totalement surpris, non, parce qu'on avait un peu l'idée que ça sera le cas, mais pratiquement, encore une fois, on ne sait jamais jusqu'au jour où on a vraiment les données pour vraiment démontrer que c'est le cas. Il y a aussi quelque chose d'autre, il y a un index qui s'appelle Healthy Eating Index, qui calcule finalement un score entre 0 et 100. Nous, ce qu'on a fait, on a calculé ça par jour, et c'était le facteur qui était le plus fortement lié à la diversité du microbiote, ce qui était extrêmement intéressant aussi. Les gens pensent toujours qu'ils mangent assez, de manière assez saine, mais c'est souvent pas le cas. Je l'ai constaté moi-même. Moi aussi, j'ai pensé que j'avais une alimentation assez saine. Et puis, une fois que j'ai commencé à suivre ça un peu avec cette application qui maintenant calcule de manière automatiquement le Healthy Eating Index, j'ai réalisé, waouh, c'est pas tout à fait le cas.
Les chercheurs eux-mêmes ont du mal à être parfaits, preuve qu'il ne faut pas culpabiliser, ce serait contre-productif, d'autant que l'obsession de consommer de la nourriture saine est un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'orthorexie. Ce qu'il faut retenir donc, c'est l'évidence. Nous avons tous et toutes en tête le slogan 5 fruits et légumes par jour. Cette étude montre à quel point l'aspect quotidien est essentiel. Plus vous mangez sain, en quantité et régulièrement, plus votre microbiote est diversifié et mieux c'est pour votre santé. L'enjeu désormais, c'est de comprendre pourquoi un microbiote riche protège l'organisme et à l'inverse, comment l'alimentation ultra transformée dérègle cet équilibre.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ave Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Jérémy Kaufmann. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.